שלום וברכה.
שלום,
שלום פאפ, שלום. חודש טוב.
חודש מבורך, שבוע מבורך, ובשורות טובות. כמו תליבו.
ברוך השם הרב. הרב לקורס פון רפואה של אמן ג'ורף צוקרמן.
כן, כן. בעזרת השם, אין בן רפואה פור נוטר רב.
אמן.
פור מון רב, בעזרת השם, כקדוש ברוך הוא פרוטג'ה, כי לוי ברוך לוי אמן, אל הרפנה לו.
Amen, amen.
Alors, on commence dans 3 minutes.
Il n'y a pas de souci. On commence quand tu veux.
Alors,
Monsieur Lassé, comment allez-vous?
Ah, je vais bien. J'espère qu'il en est de même pour vous.
Merci beaucoup, merci. Merci, merci beaucoup, tout va bien.
Bonjour, Yav, Sacha. Bonjour, Rav.
Bonjour.
Comment ça
Bonjour.
Va tous? Vous allez bien?
Ça va.
Shalom, Madame Toiti. Shalom, Anne Judith. Shalom, Evelyne. Zat Hashem. Je ne vois pas tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, mais avec moi. Ah, voilà, ça commence. Voilà, Yocheved. Je vois Yocheved.
Shalom, Rav. Chodesh Tov.
Chodesh Tov, Mevorach.
Chodesh Tov.
Il y en a qui ont allumé leur caméra, mais ils ne sont pas présents.
Eh ben, ils reviennent de pause. Il reste 2 minutes encore, Rav, c'est pour ça. Hein?
J'ai compris.
Ils prennent le café.
Voilà. Ezrat Hashem, il ne nous manque pas quelques participants du début.
Si, si, Rav, ça vient. Mais en général, même votre cours, il arrive en second après le cours du Rav Partouche. Donc il y a pas mal de gens qui arrivent 5-6 minutes en retard comme ça. Hein?
Ah.
Mais c'est normal.
Mais nous, on commence à l'heure, c'est ça?
Mais nous, on commencera à l'heure parce que...
Ok.
Parce que Imvar le Rav, il est à l'heure, alors on commence à l'heure.
Le Cédric Mou.
Ou alors, on la fait comme le Rav Zuckerman. Après l'heure, on bloque les entrées.
Ouais.
Ou au pire, celui qui n'est pas présent, il empêche tout le cours de se faire.
On annule le cours à chaque fois qu'il y a un absent.
Non.
C'est comme ça que j'ai étudié moi à la yeshiva.
Moi, je suis pour Rav, mais je vais pas. Vous allez pas.
C'est intéressant. C'est intéressant comme vision des choses. Ouais.
À ce moment-là, nous faut nous donner aussi les moyens pour les convaincre.
En fait, l'ensemble, la vision d'ensemble.
Ouais. C'était une vision de responsabilité de chacun. Si le cours est annulé, c'est à cause de l'un d'entre les élèves. S'il y a un qui manquait, c'était il fallait qu'il s'arrange avec tous les autres. Il a empêché une heure de Torah multipliée par autant d'élèves qu'il y avait. Donc, inutile de vous dire que ça nous a forgé. C'est mon maître, le Rav Zuckerman, qui faisait ça. Pas dans tous les cours, mais dans l'un des cours. C'était très, très, très compliqué. Il y a eu pas mal de cours dans l'année qui ont été annulés à cause de cela. Tov, nous on commence, Bezrat Hashem, c'est l'heure. Alors Bezrat Hashem, excusez-moi, aujourd'hui j'ai changé un petit peu l'heure parce que j'ai un cours très loin dans le sud pour un soldat qui est décédé. Je dois aller réconforter la famille.
Baruch Dayana Emet, Vehashem Yechazek
Otam. Amen, amen. Donc j'étais obligé de faire mon cours en avance. Alors, nous sommes dans le Perek d'Alet. Je vous rappelle que nous sommes donc dans Derech Hashem et que nous sommes encore dans le premier chapitre général du livre qui est Yesodot HaMetziut, c'est-à-dire les fondements même de l'existence. Donc, nous sommes encore dans les fondements de l'existence. Après, il va y avoir beaucoup de sujets. Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu nous aide à avancer. Je résume notre dernier cours. C'était les parties de notre service par rapport à Dieu, que la conduite divine se divise en deux parties. C'est les mitzvot que l'homme fait et la deuxième des parties, c'est que l'homme fait ses mitzvot parce qu'il a compris l'importance et il est obligé de les faire. Premier degré, c'est parce que Dieu les a donné ces mitzvot, et deuxième partie, c'est que l'homme se sent obligé de les faire pour X raisons. Alors, nous avons commencé l'explication. La première des choses, c'est l'application des mitzvot, tout simplement, parce que Dieu est ordonneur de ces mitzvot et nous les appliquons. Et la deuxième partie, c'est ce que l'homme va utiliser dans ce monde pour faire ses mitzvot. Et en réalité, il va comprendre, d'une manière générale, que la mitzvah qu'il est en train de faire ne s'arrête pas à un acte, mais c'est une pensée divine qui devient une réalité terrestre. Et donc, on traduit la pensée divine en réalité, c'est le sens profond de la mitzvah. Nous injectons du divin sur terre par notre application des mitzvot. Et c'est en réalité deux choses en une. Première des choses, c'est de faire la volonté de Dieu qui nous a ordonné de faire. Nous avons expliqué que faire, c'est compléter. L'asot sous-entend un tikkun, une réparation. À chaque fois que vous entendez dans la Torah l'asot, cela équivaut à une réparation du monde. Quand je dis réparation, c'est-à-dire complétude, nous complétons quelque chose dans ce monde. Et en cela, nous faisons aussi la volonté de l'infini. C'est-à-dire que nous faisons la volonté. La volonté, c'est une idée, et nous la faisons. Nous la traduisons en acte. C'est très important de traduire une volonté en acte, en réalité. C'est quelque chose de très difficile. Et si on arrivait à faire cela même nous, dans notre petite personne, ce serait déjà extraordinaire, à savoir traduire nos pensées et leur donner un volume dans la réalité terrestre de notre vie. Beaucoup de nos pensées se perdent dans l'espace parce que nous n'avons pas les ustensiles adéquats, en tout cas nous ne les avons pas développés, pour donner corps à nos idées. D'ailleurs, ça s'inscrit absolument, parfaitement dans la notion d'Égypte. La notion d'Égypte, c'est avoir des idées, ne pas savoir les appliquer dans la réalité de la vie. Rester dans le monde circulaire de nos pensées sans pouvoir les réaliser. Ceci est le sens même de l'Égypte. Et donc, la deuxième partie, ce qui est souligné ici en jaune, à chaque fois que nous faisons une mitzvah, nous complétons quelque chose dans ce monde, et c'est comme une dépendance de cette mitzvah en question, c'est-à-dire que la mitzvah touche, j'allais dire, un organe spirituel qui deviendra à son tour un organe physique dans notre vie. Comme si, imaginez-vous que le monde était un corps humain, sous la forme d'un corps humain. Chaque fois que nous appliquons une mitzvah, eh bien, nous faisons en sorte que la volonté divine circule dans le corps de ce monde. Et en même temps, donc, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, la volonté d'Hachem se révèle et se manifeste. Et comme le Ramchal est un chassid, un kabbaliste, mais chassid à la base, donc il dit aussi que la volonté de Dieu n'est que pour donner du plaisir à l'homme. C'est-à-dire que lorsque l'homme se complète, il va arriver à atteindre un degré où il profite, où il se délecte de la bonté divine. Donc il y a ici une mitzvah, une application de mitzvah du fait même que nous soyons heureux, que nous sommes heureux. Quand vous êtes heureux, vous réalisez en fait la volonté divine, car HaKadosh Baruch Hu veut des hommes sains, heureux, bien dans leur peau, bien dans leur vie. C'est très très important. Et donc plus nous sommes complets dans ce que nous faisons, plus nous atteignons ce degré de complétude qui nous rend heureux et donc qui nous fait profiter des valeurs divines. Et c'est en cela que nous réalisons la volonté de Dieu. Et donc l'homme, ce qu'il va utiliser de ce monde pour son bien à lui, à l'homme. Il faut, bien entendu, limiter toute cette utilisation des valeurs de ce monde. Il faut les limiter dans les frontières, dans les mesures que le Saint béni soit-il nous a données. Autrement dit, il faut faire très attention de ne pas sortir des frontières, de ne pas sortir des mesures, pour ne pas être dans un état de démesure. Donc, il faut faire très attention de connaître en fait ce que l'Éternel ne veut pas. Et bien entendu, il faut connaître ce que l'Éternel veut. Donc, il faut étudier la volonté de l'Éternel. Où est-ce qu'on étudie la volonté de l'Éternel ? Dans la Torah. La Torah, c'est en réalité le dévoilement de sa volonté. La Torah écrite, bien entendu, et la Torah orale, qui va compléter ce que nous n'avons pas entendu dans la Torah écrite. Et donc, normalement, tout ce que nous devons faire dans notre vie, ça doit être des actions et des pensées et des... peu importe, tout ce que nous faisons, des paroles qui sont adéquates avec la sainteté, ou être saint, pas au niveau sainteté. Être en fait dans une bonne harmonie du corps et de l'esprit. Il faut faire très attention de ne pas détruire la bri'out, la santé du corps, ou le kiyum chriyuto, et faire en sorte de le maintenir en vie tant que possible. Donc en réalité, ici, il y a une notion de teshuvah aussi. Vous l'avez déjà peut-être étudié avec le Rav Cherki, Shlita, au niveau de la teshuvah physique, corporelle. Vous ne devez pas faire des actions qui vous rendent malade ou qui vous enlèvent la santé. Ne serait-ce même que de lever un sac d'une manière maladroite avec deux doigts au lieu de l'attraper avec votre main, de vous baisser sans plier les genoux pour lever quelque chose de lourd. Toutes ces actions-là, ce sont en réalité des mitzvot négatives que l'homme et la femme outrepassent lorsqu'ils ne respectent pas la santé de leur corps. À la tzad atov, ayoter tov, il faut faire très attention de connaître son corps pour savoir ce qui le rend malade et ce qui le maintient en bonne santé. Velo kefinetia tachomer, donc il faut faire très attention de ne pas se laisser tomber, avoir, attirer par les désirs de la matière, ou tchoukato, la moutarot, et le désir du corps et de toute la matière, le monde matériel d'une manière générale, qui nous attire vers des plaisirs, vers des désirs très très puissants concernant des choses qui sont excédents à notre vie. Moutar ici, ça vient du mot meyoutar, c'est-à-dire en plus. Par exemple, ne pas laisser pousser ses ongles plus long que la chair elle-même. C'est-à-dire que quand vous regardez vos doigts de cette manière-là, comme je vous le montre, vous ne devez pas voir les ongles qui dépassent. Des ongles qui dépassent d'un doigt, de cette manière-là, ça s'appelle moutarot, et dans ces dépassements-là, il y a, chas v'shalom, des clipotes, des forces négatives qui viennent pénétrer la personne en question. Donc les ongles doivent être à la longueur, quand vous mettez la main droite, de la chair. Ça ne dépasse pas cela. Via kavana, bo, lihiyot aguf mukhan, tout ceci pour que le corps soit lui aussi prêt, préparé, ou mezuman, le shetishtamesh mimeno haneshama, pour que l'âme puisse utiliser ce corps parfaitement, puisque si ce corps est en bonne santé, la Neshama va pouvoir faire des choses qu'elle ne peut pas faire avec un homme malade qui est toute la journée au lit. Donc, la Neshama va pouvoir jouir de cette santé corporelle, les tzorech avodat boro, pour le service de l'Éternel. Shelot imtza la ikuv, pour ne pas avoir de retard dans sa vie, parce que tu as été, chas v'shalom, pendant des années, malade, impossible de bouger, impossible de faire quoi que ce soit, la Neshama souffre de la maladie du corps. La Neshama exige un corps parfaitement sain pour pouvoir, ce couple-là, neshama et corps, réaliser la volonté divine. Donc, il faut faire très attention à la santé de son corps, de la même manière que nous devons faire attention à la santé morale, mentale de notre neshama. Donc, toutes les personnes qui sont faibles, c'est parce qu'elles ne se préparent pas convenablement et la neshama ne peut pas résider dans ces corps-là. Donc, dès que vous sentez un mal-être, un malaise, même physique, il faut le soigner tout de suite pour que la neshama reprenne de sa fonction. Des questions jusque-là ? C'est clair. Quand l'homme va utiliser, quand je dis l'homme, c'est l'homme en général, hein, c'est homme et femme, bien entendu. Quand l'homme va utiliser ce monde selon les critères qu'on vient d'énumérer maintenant, de dire maintenant, le fait d'atteindre l'absolu, béni soit-il, va devenir quelque chose de beaucoup plus, on va dire, accessible à l'homme. Même si on n'atteint jamais l'absolu, mais on s'y rapproche. Eh bien, ce rapprochement de l'absolu, en tout cas de ses valeurs, est d'autant plus facile que le corps est sain avec une neshama saine. Vikne bo ma'ala amitit, et ça va donner à l'homme un degré supérieur. Une ma'ala, c'est un degré supérieur à ce qu'il était au départ. Donc l'homme doit changer depuis le jour de sa naissance. Quand quelqu'un ne change pas, il y a un problème. L'homme doit évoluer. Et si je fais le résumé de votre année, vous devez être différent de ce que vous étiez l'année d'avant. Bien entendu, dans le sens positif. C'est-à-dire amélioré, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, moins nerveux, moins malade. Tous ces éléments sont nécessaires parce que la Torah n'est pas une étude, c'est en réalité une guérison aussi. Au fur et à mesure que vous étudiez la Torah, votre corps guérit, votre neshama peut résider dans votre corps beaucoup plus facilement. Et donc, on atteint un degré, une ma'ala, amitit, véritable, comme si tu as appliqué en réalité toutes les mitzvot, avec un corps sain qui permet de diffuser les valeurs de Dieu à travers nous pour l'humanité tout entière. Kigamze mitzvah alenu. Parce que ça aussi, mitzvah alenu, c'est une mitzvah, c'est un ordre qui nous incombe. Lishmor et gufenu, d'observer et de garder notre corps. Behachana haguna, à tel point que ce corps doit être toujours prêt à de nouvelles mesures d'âme, j'allais dire. Vous savez que dans le corps humain, imaginez-vous une bouteille, le corps humain, c'est comme une bouteille, et la bouteille, en fait, ne peut pas contenir plus que ce qu'elle est. Une fois la bouteille pleine, le surplus va déborder et va glisser à l'extérieur. Eh bien, le corps humain, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que le corps humain peut élargir cette bouteille. C'est une bouteille qui s'élargit. Et donc, au fur et à mesure que la Torah nous pénètre, notre bouteille corporelle et psychique s'élargit et elle peut contenir donc beaucoup plus de mesures d'âme. Et donc, nous nous élargissons, nous devenons beaucoup plus contenants qu'au départ. Et donc, beaucoup plus d'éléments supérieurs nous pénètrent, alors que les années précédentes, ces surplus de neshama débordaient parce qu'on était incapable de les absorber. Et donc, chaque année, nous devons élargir notre capacité de contenir des mesures de plus en plus grandes de neshama. C'est clair, hein, ce que je suis en train de vous raconter. Oui. Sinon, je vous demande d'intervenir. Chez Yuchal, la Avod et Bo'enu, pour que nous puissions servir notre Créateur, Venishtamesh Me'aolam le Kavanazo, et que tout le monde dans lequel nous vivons nous permette d'être dans un seul sens, dans une seule direction, c'est celle-ci, celle que je viens de dire maintenant. Le Tachlitze, Kefi Amitztarech Lanu, et tout ceci pour nous compléter selon nos besoins.
Excusez-moi, Rav Yoel. J'étais pas là au cours dernier, je suis un petit peu perdue, je ne sais pas où on en est dans le texte.
Alors, on est presque à la fin du chapitre d'Alet. On va commencer le chapitre He. On est, ça c'est le chapitre He, Perek He. Donc, on est à la lettre, à la petite lettre. Chet.
Todaraba.
D'accord ? Ça commence par Vehine. Mima shetzarich sheyagbir adam atzmo. Donc, qu'est-ce que l'homme doit en réalité, sur quoi on doit mettre le paquet, sur quelle partie nous devons converger nos forces. Hu ha'ahava ve'ha'ira lebo'o itbarach. Deux choses, l'amour et la crainte de notre Créateur. Et qu'ici, il y a deux valeurs qui sont des valeurs extrêmement immenses. Et ces valeurs, en réalité, on ne sait pas exactement ce que cela veut dire, mais selon les façons qu'Akadosh Baruch Hu agit dans notre monde, nous pouvons savoir ce que cela veut dire. C'est-à-dire que comment je vais devenir aimant, comment je veux devenir craintif de Dieu, craignant Dieu, eh bien j'apprends par les mesures même de Dieu. Dieu a les mesures d'amour et de limites. Alors l'amour, c'est le fait de nous faire vivre, le fait d'avoir créé le monde, le fait de nous donner la nourriture, le fait de maintenir en vie tout l'univers tout entier. Ça, c'est l'amour divin. Et la crainte, c'est les mesures de chaque chose, les mesures du jour. Le jour va durer 12 heures, après il y a la nuit. Donc chaque chose a une mesure dans ce monde. Et Akadosh Baruch Hu nous apprend aussi à être dans la crainte, et vous comprenez par ce que je suis en train de dire, que la crainte, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte, c'est tout simplement acquérir des mesures dans votre vie pour que l'amour puisse remplir ces mesures. L'amour a besoin de mesures pour se disperser, se dispenser. S'il n'y a pas de mesure à l'amour, l'amour devient quelque chose de très grave. Chas v'shalom, on l'appelle chesed aussi, jusqu'à, par exemple, avoir des rapports entre frères et sœurs, des rapports intimes. Ça s'appelle aussi de l'amour. Or, c'est interdit par la Torah, bien entendu. Donc, il faut faire très attention de donner des limites à ton amour.
Une question.
Quelle?
Vous avez dit que on doit respecter son corps pour laisser un peu plus de neshama rentrer, etc. Pour avoir un surplus de neshama, la neshama, ce n'est pas quelque chose d'entier, Kélou. On reçoit des
la quantités. La neshama n'est pas un bloc.
Des quantités différentes, je ne comprends pas.
La neshama n'est pas un bloc qui nous rentre dedans. La neshama est toujours relié à sa source divine et il y a un fil depuis cette source divine qui descend et qui nous pénètre à l'endroit de notre fontanelle, ici en haut, homme et femme. Et le long de ce fil coulent des gouttes de Neshama au fur et à mesure que nous évoluons dans notre vie. Et donc notre Neshama est immense. Si vous avez réussi dans votre vie à recevoir ne serait-ce que 3/25 de votre neshama, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire sur 25 niveaux que nous devons remplir, la plupart des hommes ne remplissent même pas un niveau sur les 25. D'accord ? Donc on a beaucoup, beaucoup de travail. Donc, l'essentiel de notre neshama est en dehors de notre corps. Notre corps n'est qu'une chaussure par rapport au corps humain. Vous voyez la mesure de la chaussure par rapport au corps humain, c'est en réalité ce que le corps arrive à contenir, juste le talon et les doigts de pied. Donc, nous avons beaucoup de parties de neshama qui ne sont pas encore à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'on les acquiert ? C'est des parties qui nous appartiennent, bien entendu. Mais étant donné que le corps n'est pas capable de les absorber, alors elles restent à l'extérieur, ces parties, pour ne pas brûler l'homme, pour ne pas le tuer. Mais en élargissant nos kélim, c'est-à-dire en devenant de plus en plus capables de contenir des degrés supérieurs, eh bien, ces degrés nous pénètrent l'un après l'autre jusqu'à ce que nous soyons complets de tous ces degrés-là. Pourquoi je parle de 25 parties? Tout simplement parce que la Neshama elle-même, la Mrot, malgré le fait qu'elle soit une seule unité, elle est divisée en 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Et ces 5 parties se subdivisent encore en 5 parties, ce qui fait 25 parties générales de la Neshama.
Cool.
Et la plupart des gens, comme je vous l'ai dit, c'est le Arizal qui nous le dit, n'ont que le Nefesh de la première partie. Donc, 1/25 de sa Neshama. Il faut multiplier tout ce qu'il a fait dans sa vie, multiplier par 25, et beaucoup plus fort, parce que la première partie est relativement facile à atteindre, mais les deuxièmes plus difficiles, la troisième plus difficile, la quatrième, et la cinquième, c'est déjà un degré messianique, Yechida. Je parle ici du premier degré. Il y a un deuxième degré, troisième, quatrième et cinquième.
Vous pouvez les répéter ?
Je vais répéter. Nous avons 25 degrés qui correspondent à notre Neshama. Non, puisque
que, les 5, que les 5.
J'allais le faire.
Ah, pardon.
La Neshama se compose de 5 parties, bien qu'elle soit unitaire. Du bas vers le haut, le Nefesh, c'est la partie qui s'habille dans le sang. Le Ruach, c'est la partie qui s'habille dans le cœur. La Neshama, c'est la partie qui s'habille dans le cerveau. La Chaya et la Yechida sont des parties qui sont tellement grandes qu'elles sont à l'extérieur, qu'il est difficile d'appréhender. Ça, c'est les 5 parties de la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Maintenant, si je prends que le Nefesh, la première partie du bas, eh bien, elle aussi, elle a le Nefesh du Nefesh, le Ruach du Nefesh, la Neshama du Nefesh, la Chaya du Nefesh et la Yechida du Nefesh. Vous avez compris? Après, je monte de niveau le Ruach. Il va avoir aussi le Nefesh du Ruach, le Ruach du Ruach, la Neshama du Ruach et ainsi de suite. Chaya et Yechida de Ruach. Et si je fais la même chose pour les 5 parties, nous voici, le compte est bon, 25.
Rav Yoel, y a-t-il kesher le mila ko?
Ken.
Okay.
Ken, bevadai. C'est pour ça que le mot ko, kaf, he, représente la shechina. Ve'ani ve'anar nelcha ad ko. Dit Avraham Avinu, et moi et mon fils, nous allons aller jusqu'à ko. C'est où ko? C'est café jusqu'au 25, c'est-à-dire que nous sommes dans un processus d'évolution pour atteindre les 25 parties de notre Neshama pour devenir des hommes et des femmes complets. Avraham Zaken Babayamim.
Écho.
Avraham Avinu a complété toutes ses parties inhérentes à sa propre Neshama pour devenir le géant qu'il était. Moshe Rabbeinu, et ainsi de suite, tous les grands d'Israël, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Maintenant, nous devons arriver, Matay Yagiou Maasai le Maase Avotai. Chacun doit se poser la question, quand est-ce que mes actions deviendront équivalentes aux actions de mes pères et de mes mères?
Déjà, la question, nous sommes montés en Israël, Rav Yoel.
Oui. Il y a la montée en Israël est l'une des étapes de l'acquisition d'une des parties de notre Neshama. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez en fait dans ce monde des simanimes, des signes qui vous permettent de savoir, entre guillemets, à quel niveau vous êtes dans le fait d'avoir absorbé certaines parties de votre Neshama. Comprenez ce que je suis en train de vous raconter?
Oui.
Voilà. Alors, sans rentrer dans trop de détails, parce qu'il faut rentrer dans chacun d'entre nous et de savoir exactement tout le cheminement de sa vie, mais plus ou moins, c'est ce que les kabbalistes arrivent à savoir, quel degré de ces 25 parties ils ont déjà atteint et combien il leur reste encore à remplir. Donc, l'une des étapes très importantes, c'est notre retour en Eretz Israël. Ça vous donne déjà une référence. Si vous voulez un tout petit peu plus de détails, je vous donne juste comme ça un petit clin d'œil. Regardez quand est-ce que tombe Yom HaAtzmaout, pendant les sphiras du Homer, c'est-à-dire que chaque jour de la sphira, elle a une référence, c'est une sphère. Donc, quand est-ce que tombe Yom HaAtzmaout? Quelle est la sphira qui correspond à cette journée du 5 Iyar? Chaque année, c'est la même sphira. Si vous savez quel est ce degré de sphira, vous savez plus ou moins le degré que vous avez atteint lorsque vous êtes arrivé sur la terre d'Israël. À tel point que votre Neshama, je vais vous le lire, 5 secondes. Il y a un autobus qui klaxonne là, c'est quoi ce bruit? Alors, Alors, déjà.
Monter en Israël.
D'abord, il faut savoir que il y a différents degrés dans le degré de Eretz Israël, en réalité, et même dans la mort en Eretz Israël par rapport à la mort en dehors d'Israël. Le fait d'être enterré en dehors d'Israël, le fait d'être enterré en Israël, le fait de sortir d'Israël, le fait d'être en Israël, les Neshamot qui sont en Eretz Israël et les Neshamot qui sont en dehors de l'Eretz Israël. Voilà par exemple, le Chesed de l'Avraham nous dit « Da ki nishmat Israël hadarim bechutz la'aretz » Sache que ceux qui vivent en dehors d'Eretz Israël, leur Neshama est du monde de Sandalphon. C'est le nom de l'ange, c'est-à-dire c'est le nom comme un sandal, comme une sandale, c'est-à-dire un degré qui est très, très, très terrestre, qui touche la terre en fait. Olama Ophanim, on les appelle le monde des Ophanim, c'est l'un des degrés des anges. Et on les appelle la maison de Jacob. Et on les appelle Avadim, des esclaves. C'est-à-dire, puisqu'ils sont à l'intérieur, à l'extérieur de la terre d'Israël. Et donc, Eved, Ivri, c'est l'esclave juif. Donc, les gens qui habitent en dehors d'Eretz Israël s'appellent des esclaves juifs, dont la valeur numérique est Nachash, le serpent. Et les êtres qui habitent sur la terre d'Israël, ils viennent des 10 sphères de Yetzira. Donc, déjà, vous êtes dans un autre monde. Ce n'est même pas une autre sphère, c'est un autre monde. Tout à l'heure, on parlait de Asiya. Et là, c'est déjà Yetzira. Je veux pas vous faire peur, mais il est écrit dans les livres saints que la différence entre un monde et un autre, c'est la différence entre un homme et un chien. C'est terrible, c'est énorme. C'est des choses. Et seulement ceux qui habitent en Eretz Israël s'appellent Bnei Israël, les enfants d'Israël, et non pas les enfants de Yaakov. Et ils s'appellent les enfants du Dieu vivant. Et ainsi de suite, je ne vous dis même pas, c'est des tonnes et des tonnes de références. Et sachez, voilà, il nous dit que la première nuit où vous arrivez en terre d'Israël, on vous prend la Neshama quand vous allez dormir et on la range dans un degré. Et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, on vous donne une nouvelle Neshama de Eretz Israël.
Est-ce que c'est pour ça qu'on, quand on arrive en Israël, qu'un jour ou deux après, on se sent différente et puis qu'on a comme une sorte de distorsion du temps?
Alors, ce n'est pas un jour ou deux après, c'est immédiatement la première nuit. C'est vous qui vous sentez peut-être.
Après avoir passé la première nuit, moi ça m'arrive chaque fois.
Voilà, alors c'est après avoir passé la première nuit puisqu'il y a un changement de Neshama. Donc, vous voyez, en fait, ce qui se passe dans votre vie. D'ailleurs, ça peut se passer à différentes étapes de votre vie. Vous dormez avec un degré, vous vous réveillez le lendemain avec un autre degré. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi avoir un signal que vous avez atteint un autre degré au niveau de votre Neshama, l'un de ces 25 en question.
OK, merci.
Donc, je continue. C'est clair tout ça? Alors, Veinem, Ima Shetzarich, donc Ahava Ira, c'est ce qu'on appelle l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'amour, c'est le fait de donner, de partager. Et la crainte, c'est le fait de donner des mesures. Donnez toujours des mesures à ce que vous faites. Ne soyez pas démesurés. Donc, il faut d'abord prendre référence, puisque notre exemple, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, il faut voir les valeurs d'Akadosh Baruch Hu et combien nous sommes petits par rapport à la grandeur de l'infini, béni soit-il. Et donc, se résigner, avoir l'humilité de soi-même, les fana vidbarach, devant l'infinité de sa grandeur. Veillez voshmeromemuto, jusqu'à avoir honte du décalage entre ma petitesse et sa grandeur infinie. Veillez choshek, mais cette honte-là ne doit pas te paralyser. C'est au contraire, c'est un genre d'angoisse créatrice. C'est-à-dire que cette honte doit réveiller en toi le désir, Choshek ou Mitave, d'avoir vraiment une pulsion presque, très très puissante, Liyot Mina Ovdim Lefanav, de te rapprocher de cette grandeur et de servir Akadosh Baruch Hu devant lui. C'est-à-dire être, j'allais dire, dans la cour des grands par rapport à Akadosh Baruch Hu. Leithalel Beteilato, être capable de louer dans sa louange, c'est-à-dire de comprendre ton niveau, de comprendre de quel peuple tu fais partie, et d'être dans une jouissance quasi permanente. Leishtaber Bigdulato, et savoir quelle est cette grandeur et quelle est la chance que tu as eue d'être né dans ce peuple d'Israël qui a reçu autant de cadeaux de l'infini, on ne sait pas pourquoi. Le fait seulement de faire partie de ce grand programme qui s'appelle Israël, c'est déjà une bénédiction qui est incroyable. Et imaginez-vous le nombre de Neshamot que nous sommes. Nous sommes 600 000 Neshamot, divisés après en quelques millions de personnes. Mais par rapport à l'humanité tout entière, c'est même pas un milliardième. Je parle de toutes les générations. Toutes les Neshamot qui sont venues, tous les êtres qui sont nés dans toutes les nations du monde, par rapport à Israël, on n'est rien. Comment est-ce possible que toi, tu aies été choisi personnellement de venir faire partie de ce peuple? Même si tu n'es pas né et que tu es arrivé dans ce peuple, finalement tu y es. Parmi des milliards de personnes, tu as été choisi. Rien que de ça, tu peux mourir de Ayin Hara. Chas v'shalom. Donc il faut dire « Bli Ayin Hara » que je fasse partie de cette nation. Imaginez-vous un stade de foot tout entier et on appelle une personne. C'est toi qui as eu le gros lot. C'est à peu près ça. Imaginez-vous tous les gens jaloux lorsque tu approches pour monter au podium. Rien que du Ayin Hara, tu peux mourir en route avant d'arriver sur le podium. Donc il faut bien, bien avoir conscience de cette grandeur. Parce que tout ce que je viens de te dire, ce sont des moyens chazakim, très puissants, qui te rapprochent de ton créateur. Bien entendu, au niveau de ces mesures, on ne parle pas ici de distance. Il n'y a aucune distance à atteindre. Dieu n'est pas là-bas plus qu'ici. Mais tu te rapproches de lui par rapport aux valeurs. Nous sommes proches l'un de l'autre parce que nous pensons les mêmes choses. Ok ? Nous avons les mêmes envies. Et plus tu as les mêmes envies que le Créateur, eh bien, tu te rapproches de lui. C'est ça la proximité. Amezakrim et Troshech HaChomer, parce que tous ces éléments qui peuvent te servir de moyens pour accéder à lui, d'un autre côté, si tu ne sais pas les utiliser, eh bien, ils peuvent t'obscurcir complètement la lumière à cause de la matière superflue. Donc, mezakrim et troshech hachomer, donc cette lumière divine, quand tu l'utilises à bon escient, dans la matière même, tu peux en réalité voir même à l'intérieur des situations très délicates, difficiles, complexes, noires de ta vie, tu peux voir des degrés du divin, tu peux voir la lumière divine. Je vous rappelle que dans la théorie quantique, ce n'est pas l'expérience elle-même qui existe de par elle-même, mais l'expérience change par rapport à celui qui la regarde. Par exemple, je vous montre ce livre, dont je vous ai lu des passages tout à l'heure. Eh bien, ce livre vient d'exister seulement maintenant pour vous, parce que vous l'avez vu, parce que vous avez pris contact avec lui. Si j'enlève ce livre et je ne vous parle jamais, que jamais vous aviez entendu parler de ce livre, le livre n'aura jamais existé, même s'il existe lui-même. Mais en réalité, il n'a pas d'existence. Donc, toute son existence, c'est par rapport au lien avec toi qui le regarde et qui l'étudie. Aujourd'hui, en théorie quantique, c'est un phénomène qui est en train de révolutionner le monde. Ça veut dire que rien n'existe si ce n'est que tu as pris conscience de cette chose-là. D'accord ? Prenez un bébé qui rentre dans une chambre. Pour lui, rien n'existe si ce n'est que, je ne sais pas moi, un petit nounours qu'il a vu sur une chaise. Donc, quand il sera grand, il va dire, un jour, je suis rentré quelque part, il y avait un ours. Alors qu'il y avait des milliers de choses dans cette chambre et il n'a vu que la chose qui était de son niveau. Bien, dans notre existence, c'est exactement pareil. C'est l'homme qui va changer par rapport à la qualité de son expérience. Comment tu abordes l'expérience ? L'expérience en elle-même n'a aucune valeur. C'est toi par rapport à l'expérience, comment tu as abordé cette expérience, quelle était en réalité ton... Comment tu as accosté le sujet en question. Et c'est comme ça que nous éclairons toutes les parties de notre Neshama. Je voulais vous dire quelque chose de très 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 important, que c'est très important que je le dise maintenant, et là les paroles du Rav le rappellent. Amen, Kenny Ratson. Les parties, toutes les parties de la Neshama arrivent chez l'homme, chez le garçon, au moment de la Brit Mila. Et chez la fille, au moment où on lui donne le nom. Quand une petite fille est née, quand un petit garçon est né, le jour de la Brit Mila pour le garçon, toutes les parties, c'est-à-dire les 25 parties dont j'ai parlé tout à l'heure, arrivent. Parce qu'elles veulent participer à la mitzvah de la Brit Mila. Et chez la fille, de la faire entrer dans l'alliance d'Abraham Avinu. Immédiatement après, ne reste que la première partie, celle qui le fait vivre d'une manière minimale, et les autres parties disparaissent. Pour que la personne les ait, entre guillemets, vues une fois dans sa vie, et qu'il cherche à les atteindre, à les retrouver en fait. David !
La réaction de Arié. Alors,
je dis,
voilà, j'ai changé le doute.
Comment est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as
dit que tu as dit que tu
as dit que Donc, en réalité, c'est comme ça que nous sommes éclairés par toutes les parties de la Neshama pour les atteindre une fois dans notre vie. C'est comme si je vous disais maintenant, Rachel, est-ce que tu as envie d'une glace ? Alors tu vas me dire oui, parce que tu as déjà goûté une glace dans ta vie. Mais si tu ne sais pas ce que c'est qu'une glace, tu vas me dire j'en sais rien, moi je ne sais même pas ce que tu veux me donner. Mais c'est la même chose. Pourquoi nous sommes tout le temps dans un désir d'étudier et de grandir ? Parce qu'un jour nous avons goûté, cette fois-ci ce n'est pas une glace, ce sont toutes les parties de notre Neshama. Et nous avons à l'intérieur de nous une conscience d'avoir déjà touché à tout ça. Ok ? C'est comme ça que tu grandis toute ta vie, de plus en plus, parce que tu es poussé, en fait, à revenir vers toi-même. Parce qu'en réalité, tu vas nulle part ailleurs que vers toi-même. Tu retrouves ce que tu as perdu, donc c'est toi-même que tu dois retrouver. Et donc, en fait, on va nulle part dans ce monde, si ce n'est que vers soi. Et ce soi-là, ce moi, est énorme, puisqu'il est la source même de tout notre être. Et le jour où tu te retrouves, tu dois dire Alléluia. Parce que tu t'es retrouvé, en fait, tu as retrouvé ce qui était perdu dans ce monde. Et à la fin de cette élévation, tu vas commencer de plus en plus déjà, à chaque étape, tu te sens beaucoup plus proche des valeurs de l'éternité. Et tu sens que tu commences à agir de la même manière. Tu deviens quelqu'un de bien, tu deviens quelqu'un de poli, tu deviens quelqu'un de droit, tu deviens quelqu'un de sérieux, tu deviens quelqu'un... Attention, je n'ai pas dit faire la gueule, hein. Sérieux, c'est sourire. De quelqu'un qui sait être généreux, quelqu'un, toutes les valeurs d'Hachem, tu commences à les atteindre dans ta vie et c'est ça ta proximité. Tête, est-ce qu'il y a des questions?
Mais j'ai coupé les micros alors.
Eh ben oui, mais tu peux les ouvrir s'il y a une question.
Voilà, vous pouvez activer vos micros.
Ok.
Alors. Je vous ai écrit dans le chat. Pourquoi le bébé ne reçoit pas les 25 et après, s'il n'est pas à la hauteur, on lui enlève?
Non.
Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça.
Je sais que vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit que les 25 sont présents à la nomination ou à la bride et après, c'est le bébé qui doit les conquérir petit à petit. C'est tout l'enfant.
Alors, mais c'est quoi la question?
Je vous ai dit pourquoi c'est pas l'inverse, qu'on lui donne les 25 et après, on lui retire s'il n'est pas à la hauteur.
Ah non, ça ne marche pas comme ça parce qu'en réalité... Si on te donne quelque chose déjà, c'est déjà gratuit, ça s'appelle le pain de la honte. Or, nous sommes arrivés sur Terre, et dans toute la création que vous connaissez, parce qu'un jour, il y avait la chita que vous proposez maintenant. C'est-à-dire qu'on recevait tout gratuitement, et les Neshamot n'ont pas supporté cette honte. Parce que recevoir gratuitement, c'est la plus grande des hontes. La personne ne peut plus supporter cela. Donc, nous avons demandé en tant que Neshama collective, à Kadosh Baruch Hu, crée-nous un système différent. Nous voulons acquérir par notre travail ce que nous avons, ce que tu nous donnes, et pas gratuitement.
Arabe, est-ce que la prophétie, c'est pas un petit peu ce pain de honte-là?
C'est exact. Oui. Ça s'appelle Nahama de Kisufa, le pain de la honte, Nahama de Kisufa. Ou bien l'Echem Chesed, l'Echem Bizayon.
Alors pourquoi on l'attend, la prophétie?
La prophétie, c'est parce qu'elle nous a été donnée à la racine, mais nous devons travailler. Ça fait déjà 6000 ans, plus exactement 4000 ans, 3000 ans que nous voulons revenir à la prophétie. Donc c'est quelque chose qui fait partie de nous, mais que nous travaillons. Et l'étude que vous êtes en train de faire maintenant, c'est un désir, même si on ne le dit pas clairement, à revenir à la prophétie.
Mais si c'est une honte, la prophétie, pourquoi on voudrait revenir à elle?
Pourquoi c'est une honte, la prophétie? Comment vous êtes arrivé à cette conclusion?
Non, c'est moi, c'est moi, c'est David Alpar. C'est un cadeau reçu gratuitement de Dieu, la prophétie, on est d'accord?
Non.
Travailler pour ça.
Tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons atteindre dans notre vie, c'est un cadeau de Dieu. Mais c'est un cadeau fermé, qui reste fermé. Et c'est à nous de l'ouvrir.
Ok, je vois.
D'accord?
J'ai compris.
Donc, même si Dieu nous a donné en réalité la prophétie comme cadeau, eh bien, tu dois t'entraîner pendant toute ta vie à développer ce cadeau. Moi, Yoel, Akadosh Baruch Hu m'a créé avec une âme d'artiste. Mais ça fait 50 ans que je suis dans mon atelier à essayer de développer l'art que Dieu a mis en moi. C'est tout. Et si je ne faisais pas ce travail... Eh bien, l'art que Dieu m'avait donné comme cadeau aurait été dans son cadeau avec le papier cellophane et un nœud, et un double nœud. Jamais j'aurais ouvert ce cadeau, Chas v'shalom.
En fait, on peut dire qu'on reçoit a priori et on mérite a posteriori.
C'est ça, exactement. Tout est déjà en nous et c'est à nous de développer et d'acquérir et de gagner en fait ce cadeau qui reste fermé. Et le cadeau va s'ouvrir seulement quand j'ai fait l'effort.
Maintenant, le Sheila Rav Yoel. Est-ce que nous avons besoin de savoir ou de nous pencher sur le niveau de la neshama que nous avons?
Pas forcément. On peut avancer tout simplement dans notre vie. On doit quand même savoir quelles sont les qualités que nous avons, parce que chacun de nous a des qualités. si j'ai été créé avec certaines attirances pour certaines choses, c'est que ma neshama a cette tendance-là. Donc, je dois faire en sorte de développer, de découvrir.
Mais j'ai l'impression souvent que c'est le résultat de ma propre vie.
Non. Le résultat, c'est ce qui va de votre vie, c'est ce qui va se dévoiler. Mais ce qui se dévoile est déjà dans le panier que vous avez reçu cadeau en valeur absolue dès le moment de votre naissance. Je vais le dire avec d'autres mots. Quand vous êtes né, vous avez reçu 1000 cadeaux. Pendant votre vie, vous en avez ouvert 20. Mm-hmm. Et vous avez 980 cadeaux qui sont à vous, mais que vous n'avez jamais ouverts. Et quand vous arrivez jusqu'à 120 ans devant Akadosh Baruch Hu, il va vous dire, je vous ai préparé une vie à 1000 cadeaux et vous avez utilisé que 20 cadeaux, donc vous devez revenir en Gilgoul dans ce monde pour compléter 980. Le deuxième corps qui va arriver dans ce monde, il va en faire encore 30. Alors maintenant, on est 30 plus 20 d'avant, 50. Et on retourne vers Dieu. Il nous dit, maintenant, je t'ai donné 1000 cadeaux. Il y a deux corps qui sont descendus. À eux deux, ils ont fait ouvrir que 50 cadeaux. Il vous manque 950. Troisième corps, il descend dans le monde. Et ainsi de suite. Vous avez compris comment ça marche ? Finalement, il y a à peu près, je ne sais pas moi, 50 ou 60 corps différents qui sont venus à des périodes différentes dans l'histoire pour compléter ces 1000 cadeaux que cette Neshama devait dévoiler dans le monde. Et à la fin des temps, au moment de la résurrection des morts, ces 200 personnes qui ont été renvoyées dans ce monde pour la même catégorie de Neshama, pour le même cadeau, pour les 1000 cadeaux, ces 200 personnes vont se reconnaître, vont savoir qu'elles ont toutes travaillé pour ces 1000 cadeaux en question. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Moi, j'ai fait les 50. Ah, oh là là, moi, j'en ai fait 20. Et toi, moi, j'en ai fait 100. Wow, c'est génial.
Est-ce que c'est normal qu'on ressente...
Si c'est un Français, il fait comme ça quand ils en... Parce qu'il n'y a aucune langue dans laquelle on siffle comme ça pour dire quelque chose. Donc, moi, j'ai fait 200. Okay. C'était quoi la question ?
La question, c'était est-ce que c'est normal que je ressente les neshamot qui m'ont précédé ?
Bevadaï, parce que vous êtes une femme ouverte, transparente, et donc vous vivez avec cette conscience très, très, très ouverte. D'un autre côté, vous êtes une femme, sans que je vous connaisse personnellement complètement, mais d'après ce que vous venez de me dire, vous êtes une femme qui peut souffrir beaucoup.
Oh oui.
Voilà. Parce que d'un côté, c'est très ouvert. D'un autre côté, vous êtes sensible à tout.
Et vulnérable.
Et donc, vous êtes comme une éponge, puisque vous êtes consciente de tout. Et c'est ce qui est dit dans la Torah. Marbe da'at.
Marbe makov.
Marbe machov, pas makov. Machov.
Machov.
Slicha.
Donc, ben, j'appelle ça, comme je suis née au mois de Tammuz, de Parashat Balak, je dis j'ai une vision. Je vois des choses que les gens ne voient pas et ça, ça me fait effectivement souvent,
très mal. D'un autre côté, c'est aussi t'amuse.
C'est positif aussi.
Ouais.
T'amuse. T'amuse.
Donc,
ok.
Vous avez compris, donc, nous sommes dans une période en flux, ce qui est la dernière période de toute la création du monde. Et le temps est en train de s'accélérer parce qu'on arrive aux dernières années en fait de toute cette création. Donc toutes les données aussi sont en train de monter à la surface. Donc c'est quelque chose qui est très 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 puissant, qui est en train de se passer et qui va s'accélérer dans les années qui viennent, quoi. Donc tout ce que vous ressentez aujourd'hui, Ken.
Et là, est-ce que vous pouvez faire une juste petite référence? On est Yom Rishon Shel Chodesh Arishon.
Nachon. Donc la journée aujourd'hui, c'est pas par hasard d'ailleurs que le cours a glissé un tout petit peu vers ce genre de choses, c'est parce que tout simplement nous sommes le jour anniversaire en fait du peuple d'Israël.
Donc,
c'est le début des rois, c'est-à-dire les rois, c'est que les rois d'Israël, hein, pas les rois du monde, et ça veut dire ceux qui couronnent Dieu comme roi de l'univers. C'est aujourd'hui, donc c'est Rosh Hashanah aujourd'hui. Donc il y a une journée très puissante dans laquelle est repliée aussi la soirée de Pessah que nous allons vivre dans 2 semaines. Elle est déjà pliée aujourd'hui. Donc certains d'entre nous déjà vivent le Seder déjà ce matin et hier soir. Donc, selon la capacité de l'être. Tiens, il m'a mis en écran grand, ça veut dire que le chiour va...
Non, grave du tout, mais c'est comme ça, on vous voit en grand, parce qu'on vous voit à moitié avec le texte, et c'est dommage.
J'ai compris. Ah, je croyais que c'était un truc... mais maintenant, je n'ai plus de texte, et il est arrivé le temps où je dois continuer à lire. C'est magnifique. C'est grave. En plus, il n'y a pas grand-chose à voir, à part mes frisettes, là. Dov. Alors, où tu en es là? Il faut que je fasse moi le chat?
Arav, c'est à vous de remettre.
Ah, c'est toi qui m'enlève, mais c'est moi qui remets. C'est extraordinaire.
Baruch haba.
Ok, alors voilà. Donc, Veomnam, Talmud Torah. Maintenant, nous sommes dans la lettre tête. Veomnam, Emtsaï Echad. Et malgré tout ce qu'on vient de dire, il y a un moyen. Natan Lanoua Elit Barach, que Akadosh Baruchou, béni soit-il, nous a donné. Chez Madrigato, dans le degré, les Maalamikol Sharaim Tsaim, il est beaucoup plus élevé que tous les autres moyens pour nous rapprocher à Mekarvim et à Adam et Lav, pour se rapprocher de Dieu, Vehu Talmud Torah. Et c'est. C'est quoi?
La joie. Non.
C'est quoi?
La joie.
Talmud Torah!
Ah, Talmud Torah.
L'étude de la Torah.
Non, ce n'est pas l'étude de la Torah.
Yeshiva online.
C'est l'étude et l'enseignement. Ce n'est pas Limoud Torah. C'est Talmud. Vous connaissez la différence entre Limoud et Talmud?
Okay.
Eh bien, Limoud, c'est l'étude de la Torah. Talmud, c'est étudier et enseigner. C'est-à-dire faire passer ton étude à autrui. D'accord? Donc, quand vous faites ça, quand vous étudiez, que vous faites passer la Torah que vous avez étudiée à vos amis, à vos enfants, à vos proches, à vous-même, je ne sais pas moi, okay, eh bien, c'est le meilleur, le plus grand des moyens pour vous rapprocher des valeurs de l'Éternel. Vehu bebet bechinot. Et cette étude et cet enseignement de la Torah vient en 2 degrés. Aleph, premier degré. Au niveau de ta logique, au niveau de l'étude. Et la deuxième partie, au niveau de l'intelligence que tu vas développer en toi et les informations que tu auras acquises. Kihine. Ratsa bechazdo itbarach vechiber lanu chibur dvarim kemo shegazra chochmato. Nous avons dit tout à l'heure qu'Akadosh Baruch Hu nous a préparé, prévu un genre d'arène dans laquelle chacun de nous va avoir tous les acteurs nécessaires à son tikkun. Imaginez-vous que vous êtes chacune dans un théâtre qui correspond à votre neshama. Ça veut dire que Dieu va faire en sorte que vous allez rencontrer les personnes, les situations, tout ce qui est pour vous. Personnellement, ça veut dire que vous allez avoir toutes les occasions possibles et imaginables dans votre vie pour arranger ce pourquoi vous êtes venu.
Wow.
Donc c'est comme si on vous a créé un décor de cinéma privé, personnalisé. Ou Messaram là nous, et donc chacun de nous, imaginez-vous la grandeur divine, il a fait ça à chaque personne, à chaque animal, à chaque fourmi, c'est extraordinaire. C'est-à-dire tout ce que vous allez passer dans votre vie, vous avez le décor qui vous correspond. Tu entends, Judith? C'est comme si le monde a été créé que pour toi, que pour moi. Chacun de nous a le décor qu'il doit avoir avec les personnes qu'il va rencontrer dans sa vie. Tout ce qu'il aura passé dans sa vie, c'est son décor à lui, son film à lui. C'est clair?
Mais alors, du coup, nos choix, notre libre arbitre, entre guillemets, ce n'est pas un vrai libre arbitre.
c'est un libre arbitre, mais il est limité par rapport à ceux dont nous devons faire partie. C'est-à-dire que c'est un libre arbitre qui a tous les éléments nécessaires pour mon tikkun. Ce n'est pas un libre arbitre qui est jeté comme ça, on te donne à faire ce que tu as envie dans la vie. Je te donne tous les moyens pour faire ton tikkun. Moi, je t'ai créé pour un tikkun. Je ne t'ai pas créé juste pour que tu vives et que tu meurs. Maintenant, dans l'intérieur de ce tikkun, je vais te mettre tous les ingrédients. C'est comme si on donnait aujourd'hui dans Masterchef, je ne sais pas, moi, il y a des émissions de cuisine. Voilà, tu dois faire un bœuf à la, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça, avec une sauce bien spéciale ou de la viande. Et on te donne en fait un magasin entier à ta disposition avec des légumes, des fruits, des machins, des trucs, des viandes différentes et tout. Débrouille-toi dans ce magasin, je veux qu'en 2 heures, tu me sortes ce rôti avec un truc extraordinaire, le meilleur qui soit. Vous avez compris comment ça marche ? Mm-hmm. Eh bien, voilà, on est dans Masterchef de notre vie, on a tous les ingrédients, et c'est à nous de choisir pour arriver à la fin de notre vie avec le meilleur plat qui correspond en réalité à notre tikkun. Est-ce clair ?
Donc en fait, on peut très bien ne pas y arriver en fonction de nos choix et de nos décisions.
Tout à fait. Vous pouvez rater parce que vous avez mis trop de sel,
oui.
Trop de piquant, trop de piment, pas assez de trucs, c'est un peu fade, vous avez brûlé votre sauce. Je sais, moi, voilà. Is it clear?
Très clair,
Maria. Très clair. OK. So, okay. We have 2 minutes. Alors, donc tout est à l'intérieur, à la kavana anechona shi'asiyat reftzo itbara. Et tout ça pour que tu fasses. Il y a une kavana, il y a pas, on t'a pas envoyé comme ça en l'air. Le monde, il a un but, et toi aussi, tu as un but dans ce monde. Donc c'est asiyat reftzo. Il faut que tu finisses par faire au goût du grand cuisinier qui t'a envoyé. Voilà, prépare-lui un plat. Maintenant, vous comprenez pourquoi Yaakov, avant de mourir, il demande à ses deux enfants, pardon, Yitzhak, avant de mourir, il demande à ses deux enfants, avant de les bénir, allez me préparer un plat. Mm-hmm. Allez chasser, me préparer un plat comme j'aime. Tout ça, c'est en réalité une référence à Dieu. Yitzhak, ici, c'est Dieu, comme ça dit le Zohar. Et il demande à ses deux enfants, Yaakov et Esaü, va me préparer un plat, fais ce que tu veux dans ta vie, je veux qu'à la fin tu m'amènes un plat comme j'aime. Voilà l'histoire de notre vie. Donc, préparez vos tabliers, aiguisez vos couteaux, et je vais terminer le chiour en vous disant juste d'aller, vous avez une semaine pour revenir la semaine prochaine avec un plat magnifique. Bezat Hashem, je termine juste ce passage. Encore, tu m'as envoyé.
Slira.
Je devais t'attraper à travers l'écran. Aïe. Juste, je finis. Voilà. Itatsembo, donc tu vas grandir, tu vas devenir très puissant. Al Yadam, Ma'ala Eliona Veshlemut Gadol Admeod. Et tu vas toi-même sentir ta grandeur. Tu vas voir que tu as évolué dans ta vie et tu vas te sentir heureux. Merci pour votre écoute.
Cette fois-ci c'était la bonne.
Merci. D'ailleurs, je profite pour remercier David pour tout ce qu'il fait pour. Il veut me couper la parole. Parce qu'il n'aime pas que je dise de bonnes choses sur lui.
Les compliments.
Shalom, Kvod Arav. Bezat Hashem. Sobot, Kvod Raphaël.